Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes donc en direct et en public au Salon de l'Agriculture. Le paysan serait-il devenu tendance pour intéresser à ce point le monde du cinéma ? Comme le note le magazine Positif dans sa dernière livraison, 5 films français sortis entre fin 2017 et début 2018 en ont fait leur personnage principal et ont pris le monde rural pour décor. Petit paysan, Normandie nue, Sans adieu, Le semeur et Les gardiennes. Alors une telle profusion est d'autant plus visible que l'agriculture est d'habitude sous-représentée dans les œuvres de fiction. Au cinéma, on croise davantage de profs, d'artistes, de médecins ou de flics que d'agriculteurs. Et c'est un peu pareil en littérature. Alors certes, les romans régionalistes, L'école de Brive, convoquent fréquemment la figure du paysan, mais c'est souvent pour en faire un porte-drapeau de la France éternelle, d'un monde disparu qui ne correspond plus guère à la réalité du monde agricole. Alors dès lors, comment leur donner vie pour en faire des personnages de fiction contemporains ? Comment les mettre en scène et dans quel lieu, sans tomber dans l'excès de nostalgie ou dans l'exotisme ? Paysans, des héros trop discrets. C'est autour de cette discussion que nous allons vous accompagner jusqu'à 19h ce soir depuis le hall 1 du Salon d'Agriculture. Et ce, en compagnie de 3 invités. Marie-Hélène Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain. Votre dernier roman, Nos Vies, a été publié chez Buchet-Chastel. Alors, ça se passe en ville, mais la majorité de vos précédents romans ont pour décor le monde rural. Je citerai L'Annonce, Joseph, Les Pays, même si Les Pays est à cheval, justement, sur la ville et sur la campagne. C'est toujours chez le même éditeur, hein, Buchet-Chastel. Vous êtes par ailleurs fille de paysan. Vous avez grandi dans le département du Cantal. Et c'est un point commun avec notre deuxième invité que d'être fille de paysan. Il s'agit d'Hubert Charuel. Bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur de cinéma. Votre premier long métrage, Petit Paysan, est nommé 8 fois au César. C'est demain soir, notamment dans la catégorie du meilleur film et du meilleur acteur. Vous êtes donc vous aussi fils d'agriculteur. Vos parents étaient éleveurs laitiers dans le département de la Haute-Marne. Et c'est sur leur exploitation que vous avez tourné ce film Petit Paysan. Et puis notre troisième invité, alors lui c'est un parigot pur jus, mais il s'est intéressé au monde rural dans son dernier roman, c'est Vincent Ravalec, bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, réalisateur, scénariste, on vous connaît notamment, on vous le rappelle à chaque fois pour Cantique de la racaille, mais enfin il y en a eu de nombreux d'autres. Et donc votre dernier roman qui est publié chez Fayard s'intitule Sainte-Croix-les-Vaches, c'est un thriller rural, c'est comme ça que c'est présenté, ça se déroule, alors on ne sait pas exactement, mais enfin a priori c'est soit dans le sud de l'Auvergne, soit du côté de l'Aveyron, dans une petite communauté de paysans ou d'anciens paysans dont la tranquillité va être remise en cause par l'arrivée d'une députée d'un parti qui s'appelle En Avant. Toute ressemblance, évidemment, n'est pas avec un autre parti, n'est pas totalement fortuite. Alors, quand on a eu l'idée de vous inviter, Vincent Ravalec, parce que ce n'était pas vous, forcément, l'invité le plus évident pour parler de la représentation des paysans dans le monde de la fiction, autant pour Hubert Charuel et Marie-Hélène Lafont, ça nous semblait assez évident. Pour vous, ça l'était moins. Je me suis dit, tiens, ben, en plus, on va l'inviter au Salon de l'Agriculture. C'est quelque chose, sans doute, où il n'a jamais mis les pieds. Vincent Ravalec, qu'est-ce que je vois ? C'est qu'il y a 2 ou 3 jours, vous avez participé à une discussion sur le site alors de WikiAgri, où vous avez parlé justement de questions agricoles. Alors, ça doit vous faire bizarre, ça, non ?
Non seulement ça me fait bizarre, je tiens à préciser que, 1, je ne suis pas fils agriculteur, 2, je n'ai aucune légitimité pour parler du monde rural, clairement. Par contre, je pense que j'ai une légitimité comme écrivain et pour raconter des histoires. Et je pense qu'on est tout de même, c'est ce qu'on disait avant l'émission, je veux dire, on est des êtres de réalité, mais on est des êtres de fiction avant tout. Je pense que si la fiction n'existait pas, bah, rien autour de nous n'existerait. Et que par un concours de circonstances, en fait, il se trouve que j'habite moitié du temps à Paris depuis plus de 20 ans et moitié du temps dans un petit village. Et qu'à chaque fois que je descends du TGV, vraiment, je change de... C'est vraiment un autre espace, un autre temps. Mon corps n'est plus le même, mon esprit n'est plus le même. Et je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, de prendre un espace rural comme ça. Alors, c'est un espace rural un peu particulier. Il n'y a plus rien. Il y a plus de... Les téléphones ne passent pas. Il n'y a plus de médecins. Et puis d'y convoquer en fait plein de gens de la société civile d'aujourd'hui et puis d'en faire un espèce de petit théâtre. Et du coup, là, je pense que j'ai une légitimité pour raconter une histoire qui se passe à la campagne.
Une légitimité littéraire, même si, alors, dans cette émission que j'évoquais, à laquelle vous avez participé, il était surtout question d'agriculture et moins de littérature. Est-ce que vous, Marie-Hélène Lafont, et vous, Hubert Charuel, il vous arrive d'être souvent sollicité pour parler, justement, de questions agricoles avant que de parler de fiction ? Et est-ce que ça peut être parce que, peut-être, que le monde rural attend aussi, ou en tout cas est intéressé par la façon dont on le représente, Marie-Hélène Lafont ?
Moi, je crois que pour rentrer dans le dur de la réalité du monde rural, rien ne vaut, du monde rural et du monde paysan, il ne faut pas confondre les deux, rien ne vaut la littérature, rien ne vaut la fiction pour rentrer dans le dur du réel. Soulever les choses, les dire de la façon la plus juste et la plus serrée possible. Et ça m'est apparu de façon extrêmement nette, notamment dans Petit Paysan.
Hubert Chervel.
Oui, moi j'ai l'impression que, en tout cas, je suis depuis. Alors finalement, moi c'est très frais, puisque mon premier long métrage est sorti il n'y a même pas un an. Mais je suis de plus en plus sollicité. En effet, on a eu plusieurs sollicitations aussi pour venir au Salon de l'Agriculture. Et c'est sûr que moi aussi, quand je veux présenter mon film en campagne, il y a une différence quand je présente le fait que je suis fils de paysan ou quand je ne le présente pas. Ouais.
Est-ce que vous avez senti justement qu'il y avait une attente de la part de ce monde paysan, de ce monde agricole, par rapport à l'image que vous alliez leur renvoyer de ce qu'est leur métier? Comment ça réagit en général?
Bien sûr.
Charvel.
En fait, il y a deux cas. Il y a évidemment, il y a deux choses qui ressortent. Il y a d'abord l'hommage qui leur est rendu et qui passe aussi par ce biais de la fiction. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on attache beaucoup au monde paysan des documentaires ou des reportages, choses comme ça, mais finalement peu par la fiction. Et donc, je crois que ce qui ressortait le plus, c'était merci de montrer qu'on aime nos animaux. Est-ce que ça, eux, le ressentent pas? Et l'autre chose, c'est il y a toujours un truc, et moi ça je peux le comprendre, c'est-à-dire ils ont très peur de la représentation qu'on va donner d'eux, en fait, et qui focalise un petit peu sur le truc genre mais vous pouvez pas nous montrer dans un thriller, c'est trop noir, où il y a des gens qui attendent un petit peu trop une carte postale, en tout cas quoi. Mais du coup ce n'est plus une fiction quoi.
Merci qu'on aime nos animaux, hein, parce qu'il faut préciser alors juste le début du film. Voilà, c'est un petit paysan, hein, puisque c'est lui le héros de votre long métrage, qui est confronté à une maladie qui touche son troupeau et qui va essayer de s'en sortir et de dissimuler le plus longtemps possible au service vétérinaire que voilà le fait que ces vaches sont malades et qu'ils ont de les abattre. Il y a beaucoup de suspense, donc il ne faut pas en dire beaucoup plus pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Cette attente, Marie-Hélène Lafont, est-ce que vous la ressentez vous aussi, peut-être par rapport à certains de vos lecteurs? Par exemple, un de vos livres que j'évoquais, c'est Joseph. Joseph, c'est un ouvrier agricole. C'est un garçon de ferme, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, qui est un vieux garçon. Est-ce que des Josephs ont lu votre livre?
Alors, soit des Josephs, mais des Josephs, il n'y en a pratiquement plus. Joseph sait qu'il finit, sait qu'il est un dernier Indien, comme ses patrons d'ailleurs. En revanche, les enfants de Joseph, les filles de Joseph, viennent me dire qu'elles ont lu mon livre, et, ou qu'elles en ont lu des bouts à leur père. Et mon propre père, quand il lit des bouts de mon livre, me dit « T'as raison, c'est nous, on est comme ça ». Bon, c'est difficile hein, pour d'avoir un écho juste et de savoir qu'en faire quand on est si proche, comme c'est le cas pour Hubert Charuel et moi, de cette histoire-là. On n'a pas de génération intermédiaire.
Et quand on est si proche, Marie-Hélène Lafont, est-ce qu'on se retient peut-être sur certains détails en se disant, voilà, ce sont aussi des gens que je vais côtoyer, qui font partie de mon entourage, et je vais faire attention à ne pas les vexer, ne pas les choquer?
On ne va pas livrer en pâture, ça c'est sûr. Donc on va tâcher de faire honneur, sans mentir. Et c'est vraiment la corde raide. Hein. Dans l'écriture, c'est la corde raide. Il faut que la langue soit ajustée, que le tir de la langue soit le plus ajusté possible pour rester droit dans ses bottes à cet égard. Et je pense qu'au cinéma, ça doit être une sacrée paire de manches aussi.
Alors Vincent Ravalec, vous êtes peut-être un peu moins soumis à cette proximité-là, hein, étant donné vos origines urbaines.
Oui.
Néanmoins, pour écrire votre livre, vous êtes quand même documenté, vous êtes renseigné, vous citez notamment à la fin, dans vos remerciements, un certain André Valadier. Qui est cet André Valadier? Alors, et qu'est-ce qu'il vous a apporté pour votre livre?
Écoutez, il m'a apporté vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire que j'espérais trouver plus ou moins, et que c'est pour contextualiser. André Valadier, c'est un type qui est maintenant âgé, qui est vraiment à l'origine du renouveau de la région Aubrac. Et c'est vraiment quelqu'un vraiment de formidable. C'est pas un homme politique. Je pense que c'est quelqu'un qui a une passion dans sa vie et qui s'est dévoué à une cause, dévoué à une région. Et d'après ce que j'ai compris de lui, enfin quand je l'ai rencontré, il s'est vraiment dévoué à l'âme de sa région, quoi. Moi, il m'a raconté des anecdotes extraordinaires. Et notamment une anecdote par rapport aux bœufs de l'Aubrac. Deux choses. La première, c'est que quand les tracteurs sont arrivés, quand lui il était adolescent, en 10 ans, il a expliqué que c'était fini. En fait, il y avait les bœufs qui faisaient la fierté de la région, qui étaient vraiment la substance de la région. On n'en avait plus besoin. Ils ont été relégués. Et d'ailleurs, il a passé une partie de sa vie à essayer de remonter justement la race Aubrac. Et la deuxième chose, il m'a raconté une anecdote que je mets dans le livre, qui est arrivée, je crois, à son grand-père ou un de ses voisins. Au moment de décéder, la personne a dit « Vous rassemblez le troupeau dans la cour de la ferme, tout le monde s'en va, et vous ouvrez la fenêtre. » Et le mec a rendu son dernier souffle devant le troupeau, quoi. Et j'ai trouvé cette histoire mais hyper émouvante, en fait. Hyper émouvante parce que... Pour moi, si j'ai écrit Sainte-Croix-les-Vaches, je trouve qu'aujourd'hui, on est à un nouveau moment de la civilisation. Je pense qu'il y a eu la sédentarisation qui a été quelque chose d'énorme. Et là, on est dans une accélération, une perte de... On n'a plus d'utopie. La seule utopie qu'on a, c'est le transhumanisme, si on regarde, qui doit arriver dans peu de temps, où on va normalement se transformer intégralement, alors qu'on est encore sur des rythmes biologiques très profonds, quoi, des rythmes biologiques naturels. Et le fait... de rencontrer des gens comme André Valadier, pour moi, était vraiment très salutaire.
Donc il y avait l'idée quoi de témoigner d'un monde qui va peut-être finir par disparaître. Il y avait cette idée-là.
En tout cas, on est face à quelque chose. Là, je veux dire, les choses changent de manière irrémédiable. Et on est obligé de composer avec ça et d'être inventif avec ça.
Les choses changent. Bah, ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup et dans Petit Paysan, hein, votre film, Hubert Charvel, et dans vos livres, Marie-Hélène Lafont. Ce petit paysan, il est justement confronté. Alors, il a un de ses amis, par exemple, qui, lui, est dans un élevage plus industriel, qui fait de l'élevage à distance, c'est-à-dire que finalement ces bêtes, il les connaît très mal parce qu'il ne les voit pas toujours et puis elles sont tellement nombreuses. En même temps, il n'est pas non plus dans un changement d'agriculture en se disant je vais par exemple aller vers la permaculture, aller vers le bio. Il essaie quoi de maintenir, il est jeune, mais il essaie quand même de maintenir une façon particulière de faire de l'agriculture. Est-ce que c'était aussi cette agriculture-là que vous aviez envie de quoi de, je sais pas, de sauver? C'est peut-être un grand mot.
Alors, sauver, je sais pas, mais en tout cas de parler, moi c'est l'agriculture dans laquelle j'ai grandi. Mais voilà, moi mes parents par exemple sont partis à la retraite assez récemment leur type d'exploitation n'existe plus. Aujourd'hui, un couple qui a une trentaine, une quarantaine de vaches, ce n'est plus possible. Voilà, c'est si on veut survivre, on peut grossir. Donc moi, évidemment, qui est le personnage de Pierre, qui est un peu quelqu'un qui finalement, lui, essaye de garder un peu ses valeurs. En effet, c'est un mode d'agriculture, mais qui n'est plus vraiment en lien avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Et en effet, on doit le confronter à un autre personnage comme Fabrice, qui en effet une beaucoup plus grosse ferme, qui a grossi, qui a une autre manière de faire. Mais sûr que Pierre, c'est un peu le résistant aussi. Celui, c'est le futur Joseph, en fait. Hein. C'est celui qui va finir par disparaître aussi. Ouais.
Marie-Hélène Lafont.
Mais cette question de la disparition du monde paysan, c'est quand même un vieux serpent de mer. Hein, parce que c'est le monde paysan toujours disparaît. À force de n'en pas finir de finir, il ne finit pas tout à fait. Et en plus, le monde paysan, je crois qu'il faut se méfier parce qu'il y a des mondes paysans dans le monde paysan. Et celui que vous montrez, ce type de ferme, n'est pas encore tout à fait une exploitation. Et je crois qu'il y a une très très grande diversité. Et il n'y a que, à mon avis, la fiction pour l'attraper, cette diversité, pour la montrer, pour la donner à voir, pour l'incarner. C'est ça que nous cherchons à faire, la montrer.
Et moi, je crois qu'en plus, je m'en suis rendu compte aussi en présentant le film, c'est que il y a vraiment, là, on est vraiment à un carrefour, en fait, ce que vous disiez tous les deux, mais il y a d'autres personnes qui sont pas forcément aussi des enfants de paysans. Enfin, finalement, Marie-Hélène et moi, on a pris une autre voie, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas enfants de paysans et qui commencent à venir s'installer, qui arrivent avec de nouvelles idées, la permaculture, qui ont une autre réflexion sur le métier. Et je pense que tout ça va un peu se mélanger et va donner aussi une autre direction aussi à ce monde-là. Donc c'est clair qu'il est pas fini, en fait.
Mais comme toutes les périodes de mutation, c'est proprement vertigineux. Et ce qu'il y a de très, très intéressant dans le livre de Vincent Ravalec, c'est que justement, on voit que ces mutations peuvent occasionner de rencontres complètement chaotique et explosive.
Vous dites il y a une diversité du monde paysan, il faudrait parler des mondes paysans, mais on constate quand même que quand il s'agit de les représenter dans la fiction, les héros, ce sont rarement, enfin même jamais, sauf erreur de ma part, mais en tout cas à ma connaissance, ce ne sont pas justement des gros paysans, c'est-à-dire qui ont de grosses exploitations. Le héros, c'est plutôt celui qui est un peu David contre Goliath, c'est-à-dire le petit paysan, pour reprendre le titre du film d'Hubert Charvel, qui va se battre, qui est un peu solitaire, qui est un peu isolé, qui est dans l'abnégation, qui est là aussi pour essayer aussi de sauver une sorte de modèle, quelque part.
Justement, vous venez de camper vous-même le héros avec ce qu'il a de tragique, de grand, etc. Les gros paysans, si je puis dire, ils vont trop bien. Les gens qui vont trop bien, les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Passe à Ravalec.
Oui, moi je...
Là, c'est un héros, votre Thomas. Thomas, alors c'est le personnage principal, hein, c'est le maire d'un petit village qui est un peu plus gros qu'un hameau, qui fait ce qu'il faut pour sauver ce village, pour sauver ses cosses. Ce qu'il fait d'ailleurs, c'est pas toujours dans le monde de l'agriculture, hein, même si un petit peu.
En gros,
il fait pousser des plantes,
mais
c'est pas que des plantes qu'on retrouve dans le supermarché. Hein. Et il y avait une dimension un peu héroïque. Vous évoquiez les derniers Indiens tout à l'heure, Marie-Hélène Lafont. C'est aussi le titre, il faut dire, d'un de vos romans. Il y a un côté justement indien et western dans votre livre.
Clairement, c'est le petit village d'Astérix. Il se défend. Contre un monde qui est hostile, qui est devenu un espèce de micro-royaume dans lequel, puisqu'on l'a abandonné, il fait fi de toutes les lois qui sont autour de lui, il s'en sort comme il peut. C'est clairement le pitch du livre. Et c'est ça, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est comment il arrive à se réinventer puisque tout le monde l'abandonne, et qu'est-ce qu'il va trouver pour arriver à s'en sortir.
Alors, je disais que il y a très peu de gros paysans qui sont dans la fiction. C'est pas tout à fait exact. Si on remonte dans les années 60, alors là, on n'est ni au cinéma, ni dans la littérature, mais on est sur scène, un certain Crésus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Bon, vous savez, je suis un pauvre paysan, hein. Par exemple, je connais Marignan, je connais la Guignard, je fais un peu le blé. Moi, qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai rien, j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai peut-être dans les 80-85 hectares de blé, quoi, pas plus. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé. Ça paye pas. Ça paye, oui, si on veut. Après, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi? Ça paye. Ça paye la semence, quoi.
Voilà, le blé, ça paye la semence. La vigne, il a aussi pas mal d'hectares. Hein, vous aurez reconnu, j'imagine, Fernand Reynaud. La vigne, ça paye pas grand-chose, ça paye juste le sulfate. C'est ce qu'il dit dans le sketch. Et puis, il explique que oui, certes, les paysans, ils ont pas besoin d'acheter leur nourriture, mais il faut quand même qu'ils payent le sel. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des grosses exploitations. Ce paysan-là, donc ça date des années 60. C'est un peu, d'ailleurs, dédicace à l'Auvergne, hein, ce soir, Marie-Hélène Lafont, parce que Fernand Reynaud, c'était un Auvergnat. Ce paysan-là, est-ce que c'est un paysan dont vous avez justement essayé de vous démarquer, parce qu'à la fois dans sa façon de parler et puis dans cette représentation qu'il donne du monde agricole, on est quand même peut-être dans quelque chose qui n'a sans doute jamais existé d'ailleurs.
Oui, enfin, il me semble que c'est drôle, mais en même temps, il y a quelque chose de cruel là-dedans, et c'est de l'ordre du cliché quand même. Donc, moi, je n'ai pas de mission, hein, mais quand j'ai commencé à écrire, j'avais la nécessité de dire le lieu et le milieu d'où je venais, de la manière la plus serrée et la plus juste possible. Et évidemment, c'est tout à fait dans un autre univers et dans un autre contexte que celui-là.
Avec notamment aussi un travail peut-être sur le vocabulaire, c'est-à-dire, voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'important de retranscrire ce qui pourrait être une langue du monde rural, mais je ne sais pas si ça existe, cette langue-là.
Et justement, ce qui est très intéressant chez Fernand Reynaud, c'est le « ça a eu payé », c'est-à-dire ce passé-là, hein, ce passé surcomposé là qu'il emploie, qui est très très singulier et qui est juste, cela dit, qui sonne juste. Et pour, à mon sens, hein, pour faire un travail qui se tienne, c'est exclusivement une question de langue. Une question du mot juste au bon endroit. Et dans le film d'Hubert Charruel, du geste juste. Le geste juste. Et moi, il faut que j'incarne des gestes avec des mots. Et des silences avec des mots. C'est ça le paradoxe.
Alors justement, Hubert Charruel, comment est-ce que vous avez travaillé pour avoir le mot juste et pour avoir le geste juste? On peut se dire, bah finalement, c'est assez facile quand on est fils d'agriculteur, c'est des choses qui sont innées. Mais est-ce qu'il a fallu réapprendre peut-être une façon de parler et une façon aussi d'exercer ce métier pour que ça sonne juste à l'écran?
En fait, pour la manière de parler, moi, il y a toujours eu ce... Mais aussi qui a toujours été... considéré comme une forme d'insulte, mais genre ouais, mais tu parles comme un gros paysan, des choses comme ça. Enfin moi je, bon alors j'ai peut-être un peu d'accent, mais je ne parle pas comme Fernand Reynaud, enfin dans son sketch en tout cas, quoi. Et donc c'était hyper important pour moi de parce que ça a été aussi des grosses discussions avec ma co-scénariste, avec les acteurs, de dire mais alors du coup moi quand Swan Arlo qui joue le rôle principal du film est venu en stage chez mes parents, bon bah voilà, il y avait certaines personnes qui avaient des accents, puis moi mes parents n'ont pas forcément d'accent, donc il y avait vraiment cette question de genre mais est-ce que le personnage a un accent ou pas. Très vite ça a été clair et net pour moi que c'était non, il n'y aura pas d'accent. que voilà, il fallait que mon paysan, en tout cas, ce soit, enfin voilà, je vais pas dire une personne normale, c'est bête de dire un truc pareil, mais voilà, en tout cas, de parler comme tout le monde, en fait.
Oui, parce qu'on peut avoir un accent et être une personne
bien
normale.
Bien sûr, exactement. C'est pour ça, c'est déformé ce que je dis.
Mais en quoi l'accent, justement, ça aurait pu contribuer à exotiser peut-être un petit peu l'agriculteur, c'est-à-dire.
Peut-être, et j'ai un peu cette peur-là, mais c'est pas d'être moins pris au sérieux, mais de je sais pas comment dire, mais qui est un truc de, enfin je sais pas, je voulais pas, j'avais peur de l'accent peut parfois, en tout cas peut-être, peut parfois avoir un côté un peu de pas dévalorisant, mais en tout cas de catégoriser quelqu'un, et moi c'était hors de question, il fallait que il soit le plus universel possible en fait. Et par contre sur le geste, ça par contre c'est vrai que c'était très important dès le début et de parler avec Swan et de se dire tu vas pas juste apprendre les gestes, tu vas aller vivre avec ces personnes. Tu vois là, lui il est venu vivre pendant 10 jours chez moi, chez mes parents, il est allé traire des vaches chez les cousins et là lui a été très observateur et a compris, et moi c'était dès le début, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un phrasé, il y a évidemment un rôle, mais que le rôle il allait passer évidemment par les gestes. Et si j'avais pas ça, moi, si je croyais pas aux gestes que lui allait faire, je pouvais pas raconter mon histoire.
Je reviens à votre travail de documentation, Vincent Ravalet, ouais. Pour Sainte-Croix-les-Vaches. Vous expliquez que donc, cet André Valadier, il vous a raconté un certain nombre d'anecdotes, dont certaines sont dans votre roman. Mais est-ce qu'il y a aussi eu un enseignement à propos de ce qu'est le monde agricole, de ce que sont peut-être certaines techniques, de ce que sont certains des métiers du monde agricole?
Écoutez,
est-ce que vous avez aussi appris ça?
Le coup de bol, c'est qu'il y a eu une coïncidence, parce que je fais des films en réalité virtuelle aussi parallèlement à ça, et juste 6 mois avant, j'ai fait des films en fait pour la formation des apprentis agricoles, pour les problèmes de sécurité. Et donc je suis allé dans des exploitations, et notamment dans des exploitations de vaches laitières qui m'ont laissé un peu pantois, je dois le dire, mais où j'ai pu vraiment côtoyer ça parce que ça m'est quelque chose qui m'était étranger.
Donc vous auriez pu jouer dans le film d'Hubert Charvel?
Non, en tout cas je suis très sensible à ce qu'il a dit. Je trouve que c'est très important pour un acteur de s'imprégner, et très souvent on voit des films où ça sonne pas juste. Et là, ce qui est formidable, que ce soit d'ailleurs dans les livres de Marie-Hélène ou dans le film, c'est que vraiment ça sonne juste, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi.
Mais est-ce que ça, c'était quelque chose d'important pour vous aussi dans ce livre-là, qui se veut pas un livre documentaire, hein, enfin, je pense,
oui.
C'est pas du tout, en tout cas, comme ça, moi, que j'ai lu, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de crédibilité, c'est-à-dire de se dire, en tout cas, que les personnages soient crédibles. Donc, si on campe des personnages de paysans, faut que ça puisse être des paysans.
Ouais, écoutez, pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'à chaque fois, les milieux que je connais pas, j'essaye de m'en rapprocher, de faire des repérages, de me documenter, de rencontrer des gens. Je suis mal placé, si vous voulez, pour avoir un regard sur ce que j'ai écrit, évidemment, mais j'attends justement d'avoir des retours pour voir si, aussi fantaisiste que le livre soit, si justement tout ce qui est rural, paysan, ça sonne juste ou pas. Ou en tout cas, est-ce que ça ne sonne pas faux? C'est un peu le. Donc là, pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour. Il y a des gens de milieux ruraux qui l'ont lu, qui ont été vraiment séduits par l'histoire, qui ont trouvé ça marrant et qui m'ont pas dit, ah bah vraiment, t'es paysan, ça craint. C'est pas du tout ça, quoi. Mais j'attends, je suis très curieux, au contraire.
Marie-Hélène Affon.
Mais même quand on en vient, hein, il faut toujours actualiser ses renseignements, sa documentation, si je puis dire. Parce que si je campe en 2015 un paysan qui nourrit ses bêtes comme on les nourrissait en 1975, ça va plus du tout, ça sonne complètement faux. Donc il faut actualiser, il faut ajuster aux choses telles qu'elles sont. Parce que même si ça n'est que moins de 3% de la population active française, des paysans, des vrais, quoi, qui travaillent aujourd'hui, il y en a. Et il faut coller à ce réel-là.
Est-ce que ça peut être
nourrir la fiction.
Ouais. Et est-ce que justement ça peut être une des difficultés dans ce qu'est ce travail de représentation du monde paysan et du monde rural, que d'essayer de le faire sortir d'une image qui appartient un petit peu au passé? J'évoquais en tout début d'émission l'école de Brive. C'est un certain nombre d'écrivains qu'on peut qualifier d'écrivains régionalistes qui se sont retrouvés justement dans la région de Brive, dans le Limousin. Il y a Michel Peyramore, il y a Gilbert Borde, il y a Claude Michelet, et il y en a d'autres, il y a Denis Tillinac, qui, alors, sont des livres qui marchent très bien, qui se vendent beaucoup, qui sont beaucoup lus, mais qui témoignent peut-être d'un monde qui n'est pas exactement, là encore, celui qu'on peut côtoyer, soit quand on vient au salon d'agriculture, soit quand on va visiter des exploitations sur le territoire français. Marie-Hélène Affon.
Disons que dans les romans de terroir, je pense qu'il y a une place très grande qui est faite à une forme de nostalgie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils rencontrent un très large public. Parce que le socle paysan n'est pas loin dans la population française sociologiquement. Il est vraiment là, il ne faut pas gratter beaucoup. C'est un oncle, c'est des grands-parents qui étaient paysans. Et les romans de terroir travaillent de ce côté-là. Mais ce que je tente d'écrire moi, ou le film qu'a fait Hubert, ou le livre de Vincent Ravalek, n'est pas du tout de ce côté-là du monde.
Il n'y a pas du tout de nostalgie dans ce que vous écrivez?
Non, non, il n'y a pas de nostalgie. La nostalgie, c'est la douleur du retour. Le retour est impossible, il n'y aura pas de retour. Il faut juste tenter d'inventer quelque chose qui puisse tenir la route.
Hubert Charvel, sur cette question de la nostalgie.
Mais je n'ai rien d'autre à rajouter, c'était parfait, ça dit Marie-Hélène. Non, non, mais après, c'est sûr que non, il n'y a rien de nostalgique. Et nous, moi, je sais que sur le film, c'était hyper important de s'en écarter au maximum, de l'actualiser. Moi, ce film, je crois qu'un des points de départ, je sais pas comment dire. Moi, j'adore ce cinéma, j'adore Raymond Depardon. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que quand je suis arrivé à Paris, à la FEMIS, quand je disais que j'étais fils de paysan, on me disait « Ah oui, comme dans les films de Raymond Depardon ». Et c'est là que j'ai pris conscience à quel point je me disais « Mais c'est quoi l'image du paysan pour les gens, en fait, quoi ?» Et de sortir de ça, moi, j'écoute de la musique, j'écoute du hip-hop, mais enfin voilà, on parle beaucoup, ça communique. Et je me disais « Oui, non, c'était... » très important en tout cas de l'actualiser, de se dire non, c'est pas le même paysan aujourd'hui que celui d'il y a 40 ans en tout cas, quoi.
Vincent Ravalek.
Moi, je trouve que la nostalgie, c'est un très très bon thème, parce que c'est une problématique auquel est confronté mon héros. Il est dans ce petit village et en fait il n'y a plus rien, bref, il en a fait son petit royaume, et à un moment donné il se pose la question, qu'est-ce qu'il va en faire, qu'est-ce qu'il veut en faire, quoi. Et son obsession, en fait, le troupeau a disparu parce que le reproducteur, le taureau, en fait,
Horace,
le sperme du taureau s'est volatilisé, et ils en retrouvent du sperme congelé qui est pris en otage par un Écossais, quoi. Et en fait, leur fantasme, c'est de faire revenir le troupeau et de revenir comme à l'ancien temps. Sauf qu'ils se rendent bien compte que l'ancien temps, c'est plus possible. Donc, et je crois qu'on est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, au risque de me répéter, mais je pense qu'on est tous confrontés à ça, et on va être obligé d'inventer quelque chose en tenant compte, moi, vraiment, qui suis pas paysan, en tenant compte de ce monde-là. Parce que je veux dire, il y a une jonction à faire sans revenir en arrière. C'est pas possible non plus.
Marie-Hélène Lafont, la question peut-être de la confrontation entre le monde citadin, disons, et le monde rural, qui est quelque chose que vous avez vécu et que vous avez raconté dans Les Pays, cette jeune étudiante qui s'appelle Claire, dont on imagine qu'elle a quand même quelques points communs avec ce qu'a pu être votre histoire, qui vient du Cantal et qui vient faire ses études à la Sorbonne à Paris, donc qui va apprendre notamment le grec. Et qui va se retrouver plongé dans un monde qui n'est pas du tout le sien, avec aussi peut-être parfois, comment dire, une forme de timidité, de complexe d'infériorité. Est-ce que ça peut aussi expliquer finalement que ce monde paysan soit aussi peu présent malgré tout dans la fiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus tant d'écrivains que ça qui viennent du monde rural, il n'y a pas non plus tant de cinéastes que ça qui viennent de ce monde-là.
Oui, c'est-à-dire que nous venons de loin. Et il y a un sentiment d'étrangeté que dans le roman Claire ressent. Elle se sent comme un corps étranger dans son monde d'adoption dans lequel elle tente de se faire apprivoiser. Dans un premier temps, elle fait profil bas. Il n'empêche qu'il y a une forme de fidélité qu'elle garde par-devers elle. Elle garde dans le corps, elle garde dans la mémoire des gestes, des mots, des odeurs, des façons d'être au monde qui sont constitutives de ce qu'elle est. Et dont elle ne pourra pas se défaire. Elle ne cherchera même pas à s'en défaire, d'ailleurs. Mais elle sent que dans un premier temps, pour se faire adopter dans le monde second, le premier étant l'autre, eh bien, il faut donner des gages. Voilà. Mais bon, ça, c'était les années 80. Moi, quand je vois l'itinéraire de Hubert Charuel, par exemple, Fémis, c'est ce qui se passe avec son premier film, je me dis qu'il y a peut-être des choses qui ont bougé, quand même. Et merci de parler des derniers Indiens, des pays ici, parce que le premier chapitre des pays se passe au salon de l'agriculture.
Oui, absolument. Hein, voilà, c'est toute la famille qui vient, qui est logée chez des amis. On dit le père veut venir en voiture, et puis on lui dit non, pour venir à Paris. C'était déjà très compliqué, donc manifestement dans les années 80, de se retrouver en voiture à Paris. Et ils viennent effectivement ici. On peut parler d'ailleurs en termes, s'agissant de films, il y a eu un film dont le nom du coup m'échappe. Ça y est, voilà, avec Gérard Depardieu. Et avec Benoît Poulvorde, Saint-Amour, voilà, qui démarre ici, le père c'est Gérard Depardieu, le fils c'est Benoît Poulvorde, le fils qui aime bien lever le coude, goûter tous les bons crus du salon. Ils vont décider de faire la route des grands vins pour essayer de renouer les fils. Je reviens à ma question précédente, c'est-à-dire tout corps étranger plongé dans un milieu qui ne lui est pas forcément, sans être hostile, mais tout à fait familier. travailler, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez dû, vous aussi, Hubert Charvel, donner des gages venant du monde paysan et arrivant dans le milieu de la Fémis, où j'imagine que sociologiquement, vous ne deviez pas être très nombreux à venir de ce monde-là?
Non, on est très peu, enfin moi j'en connais pas. Évidemment, ouais. Et y a, je crois que la prise de conscience, c'est aussi de se dire, c'est qu'il y a des codes dans les deux univers, en fait. L'univers où on a grandi, le monde paysan, c'est... Moi, je crois, en fait, ma vie, elle a changé le jour où j'ai découvert Les Sopranos, qui est, voilà, de David Chase, qui est une série sur la mafia italienne. Et où, en fait, bon, alors voilà, dans le monde paysan, on ne tue personne, mais par contre, il y a toute une histoire de codes, de choses qu'on peut faire, ne pas faire, tout ça. Et moi, à partir, il y a cette prise de conscience de se dire que, voilà, il y a des codes dans le monde dans lequel j'ai grandi, et je dois avoir d'autres codes si je veux m'adapter dans le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Donc évidemment, en tout cas, que oui, il y a un truc de se sentir en effet un corps étranger. Moi, c'est un truc que je me suis collé, mais ça, ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre que finalement c'était aussi moi, ce sentiment là c'est-à-dire que je n'étais pas rejeté par les autres, c'est moi qui décidais que j'allais de toute façon être rejeté par les autres. Et ça prend du temps avant qu'il y ait des gens qui nous fassent confiance et qu'on se fasse confiance à se dire non, mais en fait ça va, en fait on est tous des humains et on peut tous communiquer, en fait.
Cela dit, Vincent Ravalec, ça marche aussi peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on est un Parisien qui vient s'installer, même si c'est pas de façon permanente, mais à la campagne, dans un petit village des Landes, j'imagine qu'avant d'être totalement accepté, même si on est un écrivain, on reste pour un moment assez long un Parisien.
Je cumule les handicaps parce que je suis végétarien, je bois pas d'alcool. Donc imaginez, dans un village où il y a beaucoup de chasseurs, c'est pas exactement j'ai pas forcément la carte immédiatement, mais
donc,
bon.
Vous n'êtes jamais invité chez vos voisins?
Bouh, écoutez, je botte en touche, hein.
Vous voulez pas vous fâcher. Il y a eu d'autres écrivains qui, après en avoir peut-être trop dit sur le milieu dans lequel ils s'étaient vécu, je pense à Pierre Jourde.
Pierre Jourde, Pays Perdu.
Autre Auvergnat, voilà, Pays Perdu, qui ce qu'il avait raconté, c'était assez détaillé, faut dire, et une partie du village dont il est originaire n'avait pas du tout apprécié quand il était revenu avec sa famille. Ça s'était pas très très bien passé, pour lui. Je voudrais vous faire écouter, ce soir, on parle vraiment beaucoup d'Auvergne, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un écrivain qui a disparu il n'y a pas très longtemps de ça, c'était fin novembre, il a disparu, il avait plus de 100 ans, c'est Jean Anglade. Il a publié de très très nombreux romans, le roman de terroir, comme vous dites, Marie-Hélène Lafont, c'est Jean Anglade. Donc, alors je vous donne quelques-uns de ses titres, je ne vais pas tous les donner parce qu'il en a écrit des dizaines: Le voleur de Coloquinte, Le tilleul du soir, La Noël aux prunes, La soupe à la fourchette, c'est-à-dire rien que dans le titre, déjà on a une petite idée peut-être de ce que peut être justement cette littérature. Et il avait été invité sur France Inter en 1969. Je suis pas sûr qu'il ait été invité beaucoup plus après, notamment enfin sur France Inter, et peut-être encore moins sur France Culture, parce que c'est pas une littérature qui est forcément très très bien vue. Et à l'époque, écoutez ce qu'il disait du paysan, de cette figure éternelle du paysan qui transcende les nationalités.
Oui, je crois que les usages paysans, la vie des paysans est à peu près la même sur toute la surface de la Terre. Je suis certain que si j'allais chez les Chinois, si j'étais invité par des paysans chinois, j'y mangerais de la soupe au chou, qui s'appelle chez nous la potée auvergnate, qui s'appelle en Russie le borch, n'est-ce pas? Mais qui est toujours l'éternelle soupe au chou que mangent les paysans. Cette soupe au chou est évidemment un symbole pour moi. Je veux dire par là que les paysans sont en contact avec un milieu déterminé, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et nécessairement les paysans de partout vivent partout de la même façon.
Qui a envie de réagir à cet extrait de Jean Anglade? Qui est lecteur peut-être ou lectrice de Jean Anglade autour de cette table? J'attends qu'il y en ait un ou une qui lève le doigt. Personne? Marie-Hélène Lafont, vous le connaissez forcément puisque vous êtes vous aussi auvergnate.
Oui, je l'ai connu, j'ai lu un livre de lui, et disons que je ne trouve pas tellement ma place dans ce genre de texte. Je crois que ce qu'il dit là, pour moi, fait écho à ce qu'a dit Hubert Charvel tout à l'heure. Il y a quelque chose d'universel dans le rapport aux bêtes, le rapport au travail, le rapport à la nourriture, la solitude aussi. Que l'on soit paysan dans la Haute-Marne ou dans le Cantal ou peut-être au fin fond de la Russie, c'est peut-être de ce côté-là que Jean Anglade se situait et qu'on peut aussi se retrouver finalement, au-delà de ce clivage entre littérature de terroir ou pas, etc.
C'est ce qui fait peut-être d'ailleurs, Vincent Ravalec, que Sainte-Croix-les-Vaches, ça pourrait se situer dans n'importe quelle région française. Non, pas tout à fait quand même, il y a une topographie qui... qui oblige un petit peu à limiter, on va dire, le nombre de coins possibles pour retrouver ce village qui est un village fictif, mais qui existe sans doute, comme tous les villages fictifs.
Ouais, disons que ce coin-là du centre de la France s'y prêtait bien, parce que d'une part, c'est très beau, et d'autre part, il peut vraiment y avoir des endroits, mais totalement ignorés de tout le monde.
Enfin,
y a plein d'anecdotes qui sont des anecdotes vraies. Là, l'anecdote du gars qui a plus que son tracteur, qui a plus de voiture, que l'assistante sociale vient plus voir et tout, c'est un truc que j'ai pas inventé, hein. c'est des anecdotes vraies. Et il y a vraiment des coins où il y a plus de médecins, par exemple.
Mais ce décor, par exemple, parce que le décor, évidemment, c'est important dans la fiction. Ce décor-là, c'est quelque chose que vous avez vu et qui existe, ou bien ce sont des bouts de décor que vous avez rassemblés?
Non, c'est mon petit décor idéal, vous voyez. Je voulais un petit peu de cause avec un paysage ruiniforme. J'adore ces paysages ruiniformes. On a l'impression que c'est vraiment des personnages qui sont surgis de milliers d'années, quoi. Et une super forêt et la montagne qui démarre. Donc c'est en fait un mélange entre le bas du Massif central, l'Aubrac, l'Aveyron, l'Ardèche, les Cévennes, le Larzac.
L'importance du décor pour vous, Hubert Charuel, le décor principal, qui est aussi un personnage évidemment important, oui. C'est la ferme, et en l'occurrence la ferme de vos parents. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-là plutôt qu'une autre que vous auriez pu louer? Peut-être parce que ça coûtait moins cher, ou c'était pour d'autres raisons?
Non, c'était pour d'autres raisons. Non, il y avait quelque chose de très pratique, où c'était la ferme de mes parents à ce moment-là était vide, et moi je savais très bien, connaissant très bien ce milieu, que je pouvais pas arriver chez un éleveur et bouleverser tout un équilibre d'un troupeau de vaches avec une caméra, qu'en gros, au bout de 3 jours, on allait le mettre dehors. Là, c'était plus voilà, où on a loué des vaches, on a remis des vaches à l'intérieur de la ferme, et donc, du coup, pour ce côté-là, c'était plus pratique. Mais évidemment que moi, il y avait... Enfin, finalement, voilà, cette ferme, je ne l'ai pas reprise. C'était une manière pour moi aussi de... Je dis toujours de la reprendre et de lui dire au revoir, et c'est vrai que c'était le personnage, parce que d'un coup, quand j'ai écrit le scénario, je pensais à ces lieux-là, je pensais à cette salle de traite, où moi aussi, j'ai trait les vaches avec mes parents, et d'un coup, c'était bah évidemment, c'était ma manière à moi de reprendre voilà, la suite de mes parents, quoi. Donc c'était un film de famille, une histoire de famille, donc on tourne dans la ferme familiale.
C'est aussi pareil pour vous, Marie-Hélène Lafont, c'est une façon de reprendre une activité qui a été celle de vos parents, que d'écrire sur ce monde-là.
En tout cas, c'est une question de fidélité. C'est une question d'appartenance et de fidélité, oui. Et ça ouvre un sacré vertige, hein, dans le dos quand on écrit ou quand on filme à cet endroit-là. Mais en ce qui me concerne, de surcroît, la ferme existe encore. Mon frère est encore paysan et il est en train probablement de traire là, à l'heure où nous parlons.
Donc il ne nous écoute pas, si, peut-être qu'il
non,
a la radio quand même.
Je crois qu'il ne nous écoute pas.
Vincent Ravalec, on est quasiment au terme de cette émission. Je vais terminer un petit peu comme j'ai commencé. Je disais, on a eu l'idée de vous inviter au Salon de l'Agriculture en se disant c'est quelque chose d'inédit. Et puisqu'on parle de décor, est-ce que, alors, puisque maintenant vous êtes des piliers de ce salon, est-ce que c'est un décor qui peut être inspirant soit pour un livre, soit pour un film?
Alors c'est déjà fait en fait, le Salon de l'Agriculture va être dans le deuxième tome.
Ah c'est vrai?
Oui, Thomas va être invité au Salon de l'Agriculture, justement, il va y avoir tout un truc. Dès que je suis rentré la semaine dernière, je suis rentré dans le truc du salon, je me suis dit, non mais évidemment, quoi. Je veux dire, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant?
Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de si évident que ça?
Mais parce que là, vous avez tout qui est mélangé, justement, si vous voulez. Et puis ce qui est fort, enfin, c'est quand on écrit de la fiction, on est toujours à la recherche des situations où il y a des juxtapositions, des hiatus qui sont forts. Et là, il y a à la fois un mélange, à la fois on imagine l'étonnement de ce type qui arrive de son milieu. Je veux dire, il y a une espèce de concentré de choses qui vous tombent sur la tête en rentrant dans le hall du palais, enfin de la porte de Versailles. Non, c'est top décor, ouais.
Je vois que Marie-Hélène Lafont est d'accord.
Il y a d'abord une odeur qui vous prend. Et qui est l'odeur l'odeur de la bête, quoi. Voilà. Quand on arrive ici, c'est complètement surprenant. Hein. Parce que quand même ici, quoi. Et moi, cette odeur, je la retrouve immédiatement. C'est l'odeur de l'étable. C'est celle-là, quoi.
Moi, ce que je trouve très drôle, c'est que, je sais pas si vous êtes familier du Salon du Livre, mais toujours quand il y a le Salon du Livre, quand on rentre au Salon du Livre les premiers jours, ça sent la vache, quoi. Parce que il y a eu le Salon de l'Agriculture juste à côté. Donc là, j'ai réussi à faire un switch, je suis allé au Salon de l'Agriculture directement.
Voilà, le Salon du Livre où on sera également bientôt, d'ailleurs, avec cette émission. Des livres, il faut parler des vôtres. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir donc participé à cette émission. Vincent Ravalec, Sainte-Croix-les-Vaches, c'est publié chez Fayard. Marie-Hélène Lafont, il y a Les Pays, il y a Joseph et puis le dernier en date, rappelez-moi son titre, voilà, chez Buchet-Chastel. Hubert Charvel, Petit Paysan, ben on croise les doigts pour vous demain. 8 nominations au César, vous allez en avoir un maximum, vous verrez. Puis je renvoie également à la lecture d'un article très intéressant dans le dernier numéro de Positif, magazine de cinéma, qui évoque justement la représentation du monde paysan dans le cinéma et qui explique notamment que peut-être que l'antériorité historique un petit peu compliquée avec la Terre ne ment pas, vous savez, de Pétain, a aussi privé peut-être ce monde-là d'une représentation dans le monde du cinéma. Voilà, je voudrais remercier également toute l'équipe, bien entendu, du Grain, Marine Beccarelli, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Hélène Langlois, David Abécassis et Benjamin Perru, chargé de production Dominique Allard. Je vous retrouve demain pour le Club des Idées du Grain. Ce sera depuis le Bel Air, le bar de Radio France.